Donc merci pour l'invitation et merci d'être nombreux pour discuter de ces questions-là qui sont un peu hors cadre habituel. Alors juste une petite précision, donc j'ai fait des nanosciences, mais comme c'était il y a 20 ans, je ne suis plus spécialiste des nanos. Ça, la spécialité, l'expertise décroît assez vite dans le domaine de la recherche. Mais je suis quand même effectivement au laboratoire de physique à l'ENS à Lyon. Et même si dernièrement ma casquette de chargé de mission transition écologique me prend quand même pas mal de temps, et je suis aussi depuis longtemps à l'Institut des systèmes complexes Rhône-Alpin, et donc dont des universités à Grenoble avaient été membres aussi. Et Fabrique des questions simples, je vous dirai un petit mot de ce que c'est. C'est une initiative qu'on a lancée il y a 5-6 ans face justement à l'urgence écologique aussi. Alors. Je ne vais pas passer trop longtemps sur ce mot d'anthropocène, bon, qui est critiqué, qui a plein d'aspects, etc. J'avais une petite animation, mais on va l'oublier. C'est un graphique qui est assez intéressant sur World in Data, qui montre comment la richesse, enfin, mesurée par le PIB, hein, donc par le PIB en fonction de la population pour l'Angleterre. Et en fait, si vous regardez ça au niveau historique, vous regardez que, enfin, vous voyez bien que pendant en gros toute l'histoire de l'humanité, enfin en tout cas, on a des données depuis 1200 ici, on est resté stable ici, ce que je montre ici, vous voyez, entre, donc ça c'est pour la Grande-Bretagne, autour de 2, 3, 4, 5, 6 millions d'habitants. Bon, il y avait la peste, etc. Enfin, ça oscillait un peu. Ah, ouais, merci. Hop. Voilà, en gros, on oscillait ici un petit peu, en gros, avec des années de bonne récolte, mauvaise récolte, et puis autour de révolution scientifique puis industrielle, autour de 1800, vous connaissez un peu l'histoire, machine à vapeur, je vais y revenir. En fait, on a un décollage qui nous propulse dans un autre monde, en fait. Et vraiment, si vous regardez à l'échelle, on passe vraiment complètement d'une façon, vous connaissez l'histoire, une croissance exponentielle, aussi bien de la population que de la richesse, même de la richesse par habitant. Et le monde dans lequel nous habitons aujourd'hui n'a rien à voir avec le monde du Moyen-Âge, si vous voulez, même de la Renaissance. Et donc, ça se traduit par quoi? Ça se traduit par exemple par des choses du style, ça c'était dans Nature il y a quelques temps déjà, donc ça c'est toute la masse, la biomasse, okay, donc tout ce qui est essentiellement végétaux, et ça c'est la masse des humains, là, sur Terre, hein, okay, donc c'est le petit truc que vous voyez là, et en fait, depuis, en gros, symboliquement, depuis 2-3 ans, la masse des artefacts produits par les humains, donc voilà, tous les bâtiments qu'on a ici, tout ce qui est béton, briques, etc., a dépassé la biomasse sur Terre. Okay, donc, c'est ça que ça veut dire, l'anthropocène, c'est qu'on est rentré dans une ère où la force humaine, disons les produits de la civilisation humaine, ont une influence énorme sur ce qui se passe sur Terre, et les humains sont devenus une force vraiment planétaire. Okay, et donc, voilà, les produits dépassent la biomasse. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est totalement nouveau à l'échelle de la planète. Et les conséquences, on pourrait se dire, c'est bien, on est, ça montre en gros l'ingéniosité humaine, et c'était le discours du progrès, si vous voulez. Effectivement, le problème, c'est que c'est devenu une sorte de puissance sans pouvoir, maintenant, la force humaine. C'est-à-dire que c'est très puissant. Mais ce n'est plus un pouvoir au sens où on contrôlerait ce pouvoir. Et donc, c'est devenu quelque chose. Donc voilà, ça, c'est un article qui est sorti dans PNAS cette année, je crois, enfin 2023 ou fin 2022, je ne sais plus, sur des prédictions climatiques, donc dans le futur. Donc ce qu'ils appellent ici, c'est le futur de la niche climatique humaine. Donc ils ont montré en gros que depuis les débuts de l'humanité, les humains arrivent à vivre dans une sorte de niche entre précipitation et température. Okay, et en dehors de cette niche-là, c'est-à-dire quand il fait trop chaud ou pas assez de précipitation, en gros il n'y a aucune civilisation humaine qui a pu survivre. Et donc la niche, donc ces zones où il est impossible de survivre maintenant, c'est des zones en noir foncé, là vous voyez, donc en gros le Sahara et quelques zones en Afrique. Mais si on continue dans les scénarios du GIEC, dans le business as usual, et bien en fait, évidemment, on sait qu'avec le réchauffement climatique et les changements climatiques, cette zone-là va s'étendre, mais elle va toucher tout ce qui est maintenant en grisé ici, Et si vous regardez la population aujourd'hui de cette zone-là qui deviendrait inhabitable, c'est quelque chose de l'ordre de 2-3 milliards de personnes. Okay, donc c'est un tiers de la population humaine. Notamment parce qu'il y a des zones ici en Inde et au Bangladesh qui sont très très densément peuplées et qui sont déjà, en fait, on en sait, il y a des étés qui sont vraiment presque impossibles à supporter. Et donc, bon, voilà, ça c'est pour dire... je pense que cette idée d'anthropocène et de changement climatique et de biodiversité nous fait vraiment basculer dans quelque chose d'inédit. Et donc, la question qu'on va se poser ici de manière beaucoup plus modeste, c'est la recherche là-dedans. Okay, donc, parce que, en tout cas, face à ce qu'on ressent comme quelque chose de vraiment très énorme, on se dit, bon, la recherche, quelle place elle peut avoir et qu'est-ce qu'on peut faire en tant que chercheur aussi. Il y a évidemment des choses qu'on peut faire en dehors de nos métiers. Mais voilà, en tant que chercheur, j'ai commencé aussi à réfléchir sur ce qu'on pouvait faire et comment la recherche était impactée par ça. Et donc, comme on l'a, tu l'as mentionné, donc je vous invite aussi à lire cet avis du COMETS il y a pile un an. Et donc, ce que vous pouvez en tirer, c'est, on peut citer ici, donc face à la gravité de la situation environnementale, la recherche doit tenter d'évaluer ses impacts au préalable. Ça, c'est quelque chose d'assez fondamental, en se demandant si utiliser ou développer tel grand équipement, donc il donne des exemples, accélérateur de particules, grand calculateur, ou travailler sur telle thématique, biologie synthétique, génomique, est susceptible d'engendrer des impacts néfastes pour la biosphère. Donc, il y a deux points très importants dans cet avis du COMEX que je vous invite à regarder. Un, c'est cette idée de haut préalable, et ça va contre quelque chose qui était largement partagé dans la communauté scientifique, qui était de dire... En gros, notre métier, c'est de produire des connaissances. On produit, nous, on fait juste avancer les connaissances et ensuite la société se débrouille. Il y a des trucs qu'elle va juger mauvais, elle ne va pas les utiliser. Des trucs qu'elle va bien aimer, elle va les utiliser. Mais ce n'est plus notre problème. Notre problème, c'est de faire avancer la connaissance. Et là, on nous dit non, c'est au préalable. Ça commence à distinguer quelles sont des connaissances qui sont susceptibles d'eux. Donc, on n'est jamais complètement sûr, mais il faut se poser la question en amont, d'accord, et pas juste en aval après. Ça, c'est le premier point important du COMETS. Et le deuxième point important, c'est qu'ils font un parallèle, en fait, entre les impacts sur l'environnement et quelque chose qui est beaucoup plus déjà digéré et intégré par la communauté des scientifiques, qui est les impacts sur l'humain. C'est-à-dire qu'on ne va pas faire des expériences sur les humains ou sur les animaux de manière indiscriminée, c'est-à-dire juste, voilà, on va prendre des animaux, on va faire des expériences, puis on verra bien après si c'est utile ou pas ce qu'on a fait. Donc il y a tout un protocole, donc on évalue au préalable et on doit justifier l'intérêt de faire, en gros, du tort aux animaux par l'intérêt des connaissances qu'on va produire. Et donc, en gros, ce qu'ils disent, c'est qu'il faut appliquer la même chose face à la gravité de la situation environnementale, la même chose pour l'environnement. Il faut justifier, en gros, que ce qu'on va apprendre mérite les impacts qu'on va infliger à l'environnement. Et donc, ça dépend évidemment des impacts qu'on va infliger, mais aussi des connaissances qui seront produites. Et donc, pour donner un ordre de grandeur, aujourd'hui, donc le CNRS a calculé son impact carbone, et c'est de l'ordre de 14 tonnes par an et par agent. Alors, si on compare ça à les accords de Paris, en gros, les ordres de grandeur, c'est 2 tonnes par agent, par personne et par an. On voit qu'il y a quand même un petit hiatus là. Et donc, ce n'est pas juste de réduire de 5%. C'est quelque chose qui... Voilà. Si on dit que ça... Et ça, c'est 2 tonnes, pas juste pour le travail. C'est vraiment globalement. Donc, si... Alors, évidemment, il y a plusieurs manières. On en discutera sûrement après. On peut voir les choses de différentes manières. Mais si on se dit, en gros, il faut que les chercheurs aient un impact individuellement qui soit du même ordre, compatible avec la moyenne nationale... Bon, ça veut dire, en gros, réduire notre impact carbone de 80-90%. Donc, ce n'est pas juste à changer quelques missions par-ci, par-là. Voilà. Alors, donc là, pour réfléchir à comment la recherche pourrait s'adapter à cette situation inédite, il me semblait intéressant de prendre un peu de recul et de regarder un peu l'histoire de comment on est arrivé à cette situation-là. Et c'est d'autant plus important, je pense, que, en fait, on dit beaucoup, et je pense qu'on a raison, que la recherche et les sciences sont une partie de la solution. Mais quand on regarde l'histoire et qu'on regarde ce qu'ont fait les sociologues et les historiens, on se rend compte que les sciences, c'est aussi une partie du problème, en fait. Et que ce n'est pas juste une question d'impact, c'est aussi une question des thématiques. Et donc, je vais faire un peu. Là, j'ai rien inventé. J'ai repris des travaux d'historiens et de sociologues des sciences qui montrent comment, en fait, depuis dans l'évolution des sciences, on en est arrivé là. Et donc, ça va donner des pistes sur comment évoluer. Alors, je suis physicien quand même, donc je vais quand même prendre un exemple de biologie après à mes risques et périls. Mais pour le moment, je suis en terrain plus sûr qui est celui de la physique. Et pour nous, voilà, le grand initiateur de la physique et donc des sciences modernes, modestement, c'est Galilée. Et si vous lisez, et ça je vous encourage vraiment à le faire, ça se lit très bien, les dialogues, bon un peu moins les discours parce qu'il y a beaucoup de maths, mais les dialogues de Galilée se lisent vraiment très bien. Et dans les discours, donc quand même en gros un des livres fondateurs des sciences modernes, où Galilée va pour la première fois vraiment utiliser des mathématiques pour expliquer des phénomènes physiques, eh bien la première phrase qui ouvre donc ce livre fondamental de la naissance des sciences modernes, ça commence comme ça. L'expérience fréquente de votre fameux arsenal, mes amis vénitiens, me semble ouvrir un vaste champ à la spéculation philosophique, et particulièrement dans le domaine de la mécanique, dans la mesure où toutes sortes d'instruments et de machines y sont continuellement mises en œuvre. Et effectivement, l'arsenal de Venise, vous connaissez la puissance maritime de Venise et donc la puissance économique, et qui était due donc en grande partie à ces navires, et donc Galilée va beaucoup s'intéresser à la forme des rames, à beaucoup de problèmes qui sont donnés par l'arsenal, qui sont suscités par les problèmes techniques de l'arsenal. Et ce qui est intéressant en fait, c'est que par rapport au monde aristotélicien, on dit souvent en fait, voilà, il y avait la science d'Aristote qui était un peu bornée, etc. Et puis Galilée est arrivé, puis avec, il était plus libre de préjugés, et puis il a vraiment fondé une science nouvelle. Il y a du vrai là-dedans. La révolution scientifique, c'est un phénomène historique très complexe, de confluence de beaucoup de choses. On pourra y revenir si vous voulez. Mais un des éléments les plus importants pour ce qui nous intéresse ici, c'est qu'en gros, le monde était en train de changer. C'est-à-dire qu'on était en train de passer d'un monde dominé en gros par tout ce qui est organique. Les vivants, les plantes, l'agriculture, les forces du vent, les forces des rivières, etc. à un monde qui était de plus en plus influencé par les machines. Okay. Et pourquoi les machines? Donc il y avait les moulins, il y avait les horloges qui étaient importantes, mais il y avait aussi toute la colonisation, donc la navigation au long cours qui exigeait des instruments pour se repérer en mer. Donc ces instruments astronomiques et de mesure de la longitude, latitude, c'était des instruments qui étaient vraiment, qui ouvraient aussi des nouvelles perspectives qui n'étaient pas connues d'Aristote. Et c'est dans ce monde-là, en fait, que le savoir de Galilée va s'inscrire. Et en gros, il faut imaginer que les savoirs modernes, c'est des savoirs qui sont pertinents pour le nouveau monde qui arrive, qui est un monde dominé essentiellement par les machines au sens large, c'est-à-dire les instruments, les télescopes. Imaginez, enfin, vous voyez l'importance du télescope aussi pour les découvertes astronomiques de Galilée. Donc, là, on pourrait passer, pas seulement un séminaire, mais beaucoup de séminaires sur l'étude historique de ces domaines-là. Je veux juste vraiment résumer ça en vous recommandant un article, mais bon, il y a plein de livres sur ces aspects-là. Donc, un article qui est vraiment intéressant, qui est publié dans Social Studies of Science, il y a déjà une vingtaine d'années, qui vraiment utilise cette expression que j'ai du mal à traduire en français, « engine science », donc « science machinique ». En gros, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, la science moderne se définit pas essentiellement par ces histoires de rationalité ou d'esprit moderne, même s'il y a des choses comme ça, sans préjugés, mais que l'ingrédient essentiel, c'est cet enchevêtrement intime avec tout type de machines. Et Patrick Carroll Burke donc, utilise le terme de machine épistémique au sens où c'est les machines qui vont définir les problèmes intéressants, qui vont concerner vraiment, enfin, qui vont permettre de définir de nouvelles questions et de aussi apporter des réponses, mais qui vont complètement définir en fait quelles sont les questions intéressantes. Parce que si vous regardez, bon, les physiciens, on est très, très fiers de ce que Galilée a trouvé comme résultat sur la chute des corps ou Newton sur l'astronomie, etc. Mais ces savoirs-là, en fait, sont totalement inopérants pour la révolution industrielle. C'est vraiment, le savoir scientifique va pouvoir se coupler vraiment et devenir efficace que via des machines. Et même Galilée, si vous réfléchissez, c'est la lunette astronomique. Le plan incliné, c'est justement un dispositif, c'est une sorte de proto-laboratoire déjà. C'est-à-dire, c'est un endroit où on peut simplifier le réel et étudier juste l'effet d'une cause, c'est-à-dire la gravité, et de, en gros, se passer des frottements. Et Galilée le dit très bien, c'est en simplifiant le problème qu'on va rendre les mathématiques pertinentes. D'accord. Donc c'est vraiment, en fait, les machines et en gros la technologie, c'est ce qui est nécessaire pour relier l'idéal, c'est-à-dire ces raisonnements mathématiques au monde. Et donc cette idée d'engine science, c'est vraiment intéressante. Donc c'est juste un petit point. Et l'autre petit point, c'est une autre image, donc je suis obligé d'aller très vite, que j'aime bien pour expliciter un petit peu ce que c'est que ces sciences modernes, c'est l'image du tigre. Alors qu'est-ce que c'est que cette image du tigre qui n'est pas très belle et très pixelisée? Je vois, il faut que j'en trouve une autre un peu moins sur un grand écran. Donc en gros, construire une explication scientifique, c'est comme dompter un tigre sauvage pour un numéro de cirque. On doit explorer ses mouvements et essayer d'en stabiliser certains, choisis en fonction du spectacle imaginé, par exemple le faire sauter dans un cerceau en feu. Okay, vous voyez bien que quelle est l'analogie ici? C'est-à-dire, on dit souvent que les sciences découvrent le monde, en fait. Découvrir le monde, ça suppose que, vous voyez, c'est très passif, en fait. Le monde est là, je découvre juste et je vois ce qui préexistait. Alors qu'en fait, il me semble que l'image de dompter un tigre, ça montre déjà qu'en fait, on est forcément en train de transformer le monde pour le rendre, justement, grâce aux machines, assimilable par les maths et par les théories scientifiques. Et que vous n'allez pas, si vous prenez un tigre sauvage et vous essayez de le faire sauter dans un cerceau en feu, vous allez avoir du mal et le numéro de cirque risque de mal se terminer, d'accord? Vous êtes obligé de faire tout un travail créatif et difficile à faire, et c'est ce qu'on fait en tant que chercheur aussi, tout un travail créatif pour dompter le monde et le rendre assimilable par nos théories. Mais l'image de dompter le tigre, je l'aime bien aussi parce qu'elle montre aussi la continuité entre le monde réel et le monde dompté par les scientifiques. C'est-à-dire que vous n'êtes pas en train d'inventer quelque chose comme ça qui sauterait dans un cerceau. C'est vraiment le tigre qui doit sauter. Donc c'est un vrai boulot difficile à faire. Et puis certains tigres ne veulent pas se laisser dompter. D'autres animaux ne se laissent pas dompter. Enfin, on peut aussi l'image un peu plus loin. Mais en tout cas, il y a un vrai travail de domptage qui n'est pas facile à faire. Mais donc ça met l'accent sur la créativité de notre métier, ce qui est bien, mais en même temps, ça montre aussi la responsabilité qu'on a, parce que découvrir le monde, en gros, on n'est pas très responsable de ce qu'il y avait sous le papier. C'était comme ça, on découvre juste ce qu'il y avait là, donc on n'a rien à voir là-dedans, quelque part. Ça va avec cette image aussi de neutralité, vous voyez, je reboucle un peu certaines boucles. Alors que si on dompte un tigre, eh bien voilà, on est responsable du fait que est-ce qu'on l'a dompté pour sauter dans un cerceau de feu, est-ce qu'on l'a dompté pour faire ceci ou cela, et donc ça laisse cette liberté et donc cette responsabilité aux chercheurs. Et puis l'image aussi permet de penser, tout expérimentateur sait que le tigre, souvent il rêve de retourner sauter dans la jungle, et donc les acquis expérimentaux sont jamais totalement acquis, il y a toujours un jour on revient puis la manip marche plus, on sait plus trop pourquoi, et donc voilà, ça rend justice aussi à cette difficulté du travail expérimental. Donc, pour résumer ce qui était un peu caricatural, mais c'est un peu les limites de l'exercice ici, un exposé très court, c'est on va dire que les sciences modernes, depuis le départ, sont intimement liées à la révolution industrielle au sens aux machines, en fait, à la révolution technologique, et donc à cette grande accélération. Vous connaissez peut-être le terme, donc le Great Acceleration. Donc c'est en gros depuis 1950, 1960, mais en fait c'est un mouvement qui a été amorcé à la révolution industrielle. L'empreinte, si vous voulez, humaine sur les limites terrestres est devenue de plus en plus grande. Donc c'est cette grande accélération qui a eu sur plein de paramètres de relation à l'environnement. Et en gros, pourquoi est-ce que c'est très intimement lié? C'est ce que j'ai dit déjà, c'est cette idée d'engine science, c'est que en gros le type de connaissances que nous produisons n'est pertinent que dans ces grands réseaux technoscientifiques qui, justement, en fait, sont aussi des grands réseaux techniques et industriels. Pour prendre deux exemples ici, et donc je vais juste, pour illustrer, je vais prendre le deuxième qui est en biologie, mais en gros, on va dire, les atomes, c'est pas ce qu'on découvre, la réalité profonde de la matière, mais une manière de dompter la matière, pour reprendre l'image du tigre, pour insérer les puissances de la matière dans les réseaux technoscientifiques. Ça, c'est l'exemple du physicien, donc je ne vais pas y revenir, sauf si vous voulez, mais je vais essayer, donc c'est là où c'est risqué, je vais reprendre un article d'un historien des sciences, donc qui s'appelle Christophe Bonneuil, qui a étudié en fait la naissance de la génome, enfin de la, pas de la génomique, des gènes en fait, tout ce qui est génomique, génétique, etc., est né en partie dans les laboratoires de Carlsberg. Donc Carlsberg, ça vous évoque peut-être quelque chose d'agréable qui est la bière, mais effectivement, déjà en fait, en partie, elle est née dans les laboratoires de Carlsberg Pourquoi? Parce que Carlsberg voulait stabiliser des levures pour faire de la bière standardisée en production de masse. Okay? Donc, tout ça, ce n'est pas pour dire que c'est... Donc, Christophe Bonnet est un historien ou un sociologue, si vous voulez, mais ce n'est pas que la sociologie va expliquer ce que les sciences trouvent, mais par contre, c'est intéressant parce qu'elle explique en partie ce qu'elle cherche et ce qu'elle ne cherche pas, du coup, aussi. Et donc, vous voyez, c'est de cette rencontre entre ce qu'on cherche et le monde tel qu'il est que va sortir ce qu'on va trouver. Et donc, la sociologie est importante pour comprendre un peu, prendre un peu de recul et voir le type de choses qu'on cherche. Alors, voilà... Donc, je ne suis pas un spécialiste de biologie ni d'histoire, mais je pense que ce qu'il montre est vraiment intéressant. Donc, par exemple, il cite ici Blaringhem, donc, c'est vraiment au début du 20e, fin du 19e, début du 20e que ça se passe. Et Blaringhem dit, voilà, l'idéal pour l'industrie, c'est vraiment de travailler sur des produits qui sont bien définis, dont la nature est bien définie et toujours identique. Quoi, pour faire de la production de masse, si vous ne maîtrisez pas la matière première, ce n'est pas possible. Donc il y a des méthodes excellentes pour purifier la matière inerte. Hein, en gros, voilà, c'est ce que les gens ont fait, et ça, c'est l'atome. Hein. Mais la matière vivante est plus complexe. Et les paysans, il dit, voilà, les paysans, pas les industriels, sont pas au courant de la valeur des méthodes industrielles, et donc elles peuvent pas garantir ce que l'industriel veut. Et donc il y a probablement des problèmes économiques, etc. Donc, en gros, l'industrie a besoin de matières premières stables et bien standardisées. Et en gros, ça va être ça le rôle, en fait, de la génétique. Ça va être de distinguer deux sources de variabilité, la partie, en gros, interne et la partie externe. L'environnement est ce qu'on va appeler le génome ou le gène. Et donc, en gros, on va essayer de discipliner, donc c'est toujours la métaphore du tigre, discipliner des organismes dans quelque chose qui est stable à l'intérieur, une identité génétique. Et voilà, dans un contexte de production, donc dans les usines, la rationaliser et avoir des process qui soient reproductibles, mais, et c'est assez similaire, dans un contexte d'expérimentation, d'arriver à mesurer de manière séparée l'influence des autres paramètres. Alors, qu'est-ce que ça veut dire historiquement, en fait? C'était vraiment l'entrepreneur, la Jacobsen, donc vous voyez, en gros, tout le 19e, qui avait fondé des brasseries Carlsberg à Copenhague, qui avait connu le travail de Pasteur en 1876 sur la bière, juste au moment où il créait son laboratoire à Copenhague, et qui a fondé effectivement donc un laboratoire de recherche biochimique, un centre qui était vraiment mondial à cette époque-là, et donc il avait besoin d'utiliser une souche qui soit vraiment reproductible. Et donc, il avait aussi appris des techniques de Koch, apparemment, à Berlin, donc avec des substrats de gélatine, voilà, etc. Et donc, en 1883, il a lancé vraiment les premiers essais de production de bière, donc, avec une lignée pure, donc qui s'appelait, je ne vais pas prononcer ça, mais vous voyez qu'il y a Carlsberg là-dedans, et qui ensuite a été breveté sous le nom de Carlsberg Botanist No. 1. Et donc voilà, ça c'est vraiment en gros la levure, une fois que vous avez maîtrisé sa variabilité interne, autant que faire se peut, eh bien c'est comme une sorte de petite machine, donc c'est eux qui appelaient ça comme ça, une petite machine qui va transformer le sucre en alcool et en gros on va pouvoir rationaliser et l'industrialiser. Et en fait, pourquoi donc je dis que la génomique en partie née là-dedans, en fait Johansen, donc il y a vraiment un des acteurs... principaux des débuts de la génétique, était en fait assistant en recherche au laboratoire de Carlsberg. Et donc, il a creusé cette idée de stabilité des types biologiques. Et c'est lui qui a introduit le terme de génotype en 1909 pour parler de cette idée de hérédité vraiment forte et stable. Okay, donc, et ça s'opposait quand même au darwinisme où l'hérédité était continue, etc. Donc je ne suis pas un spécialiste de toutes ces questions-là, donc je vous encourage à aller lire l'article de Christophe Bonneuil, éventuellement de m'en faire part si vous avez des restrictions, des commentaires sur le fond biologique des histoires. Mais Johansen, en tout cas, il dit voilà, le génotype, c'est en gros comme la molécule d'eau pour l'eau. Quoi. C'est vraiment en gros ce qui donne une identité stable au-delà de l'expression. En gros, l'eau, ça peut être liquide, gazeux ou solide. Mais en gros, ce qui est stable là-dedans, c'est la molécule H2O. Donc il prend lui-même cette analogie-là dans laquelle je me sens un peu plus à l'aise, moi, en tant que physicien. Alors, je vous donne juste un exemple de quelque chose qui est important donc en dehors de la biologie, c'est cette idée que avec cette approche scientifique qui est basée sur les machines et qui permet de stabiliser et d'avoir voilà, des choses disons, qui se prêtent à l'industrialisation, on va se créer en fait une sorte de feedback positif et c'est ça qui va vraiment faire décoller l'impact de l'humanité pour le meilleur et pour le pire. Et ce feedback positif, c'est entre ce que les artisans et les techniciens et les industriels savent faire et le type de savoir que nous, en tant que chercheurs, on produit. Et donc, je prends un exemple ici qui est très connu, qui est celui de la machine à vapeur, qui est vraiment voilà, presque la caricature de ce qui est né au niveau de la révolution industrielle. C'est vraiment... Alors, comment est-ce qu'on peut voir l'articulation entre la machine à vapeur et les sciences? Donc, il ne faut surtout pas imaginer, en fait, qu'il y a des gens qui ont imaginé, des chercheurs qui ont innové en se disant, voilà, on va faire un truc. Ils ont inventé la machine à vapeur et ensuite, les techniciens l'ont mise au point et puis ça a marché. Ce n'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. En général, ce n'est pas comme ça que ça se passe. En fait, il y a eu des études. Donc, au XVIIe siècle, on a créé ce qu'on appelait des chambres. Ça, c'est le terme vient de Engine Science. En gros, c'est la pompe à vide de Boyle. Okay, donc, lui, il crée sa première pompe à vide. Et on va étudier là-dedans les propriétés, ce qu'on appelle les propriétés élastiques de l'air, de manière quantitative, les lois de Boyle, Mariotte, tout ça, ce qu'on apprend à l'école, enfin au lycée, oui au lycée, Boyle, Mariotte avec les noms anglais pour les anglais. Donc ça va vous donner des concepts scientifiques solides qui sont le concept de vide, de pression, de condensation, etc. Et ça c'est possible en fait parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour faire la chambre de Boyle, c'est la big science à l'époque, hein, au XVIIe siècle. Ces chambres à vide là qu'il faisait, c'est vraiment des trucs très très coûteux et très difficiles à faire. Et ça n'était rendu possible que parce qu'il y avait des artisans, notamment en Angleterre, des artisans qui savaient produire des objets de précision. Et ils savaient les produire, pourquoi? Parce qu'en fait, ils fournissaient la marine anglaise. D'accord, dans des buts un peu moins nobles au sens scientifique, mais voilà, ça avait donné un savoir-faire important. Et ça a permis de, en gros, générer les connaissances techniques qui ensuite étaient employées par Watt, donc pour générer la machine à vapeur. Mais cette machine à vapeur, en fait, elle n'était pas rentable au départ, puisque l'énergie hydraulique était beaucoup plus rentable. Elle ne demandait pas de charbon, ce qui était quand même quelque chose d'important à l'époque et très coûteux. Donc, en gros, il fallait un contexte aussi. Donc, il y a un contexte, si vous voulez, un peu scientifique dans lequel, c'est-à-dire des concepts de base dans lesquels la machine à vapeur pouvait naître. Il y avait aussi un contexte socio-économique, en gros, où la flexibilité qu'apportait la machine à vapeur, qui en gros fonctionnait tout le temps et vous n'avez pas besoin d'ouvriers, ou beaucoup moins que dans les moulins, eh bien ça permettait, en gros, ça la rendait intéressante pour les industriels, parce qu'eux aussi, ils avaient une demande très forte qui venait du commerce transatlantique. Voilà, pareil, on pourrait passer des heures là-dessus, parce que c'est vraiment un point clé, en fait, de l'histoire humaine, quand même. Voilà, en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que, pour ce qui nous regarde ici, donc c'est machine à vapeur est développée vraiment de manière empirique. Et vous savez que la théorie de la machine à vapeur, c'est Sadi Carnot, donc un polytechnicien, mais c'est 50 ans après à peu près, hein, c'est 1820-30. Et Sadi Carnot publie son truc qui est complètement ignoré parce que c'est une machine un peu idéale. Le cycle de Carnot, c'est un cycle un peu idéal. Et en fait, il va falloir attendre à peu près 70 ans pour que, ça sera Rudolf Diesel, donc l'inventeur du moteur qu'on connaît encore, qui a encore quelques années à vivre, peut-être pas beaucoup, qui, vraiment, en s'appuyant sur la théorie de Carnot qui avait été développée pour les machines à vapeur, va s'inspirer de ce cycle-là et va se demander comment est-ce qu'on peut maximiser le rendement d'un cycle comme ça. Il va se dire, oui, il faut vraiment travailler à des plus fortes pressions. Et donc, il va essayer de trouver un moteur qui va se placer dans le bon régime, en gros, pour avoir le meilleur rendement. Donc, il dit, voilà, il annonce que grâce à son moteur, on va arriver à 73% de rendement. Bon, finalement, il arrive à 26%, mais en 1897, mais c'est quand même 5 fois plus que la machine à vapeur. Et donc, d'où le succès aussi du moteur. Donc, vous voyez, le feedback, c'est, j'ai des concepts scientifiques qui sont nés, voilà, le vide, la pression atmosphérique, etc. Grâce à ça, plus plein d'autres choses, on arrive à faire des machines à vapeur. La science, ensuite, s'empare de cette machine à vapeur, crée une théorie qui va un peu permettre de l'améliorer, mais très marginalement, en fait, parce que c'est essentiellement du savoir-faire de techniciens et d'ingénieurs, en fait, de plus en plus d'ingénieurs. Et ensuite, mais ce savoir théorique reste en germe, reste dans ce monde de techno-scientifique et va donner quelque chose d'autre qui est le moteur diesel, d'accord ? Donc, vous voyez, c'est ce feedback comme ça qui va expliquer ce décollage. Et le feedback, évidemment, il se fait aussi entre les machines, parce qu'une fois que vous savez faire des machines à vapeur, eh bien, vous pouvez travailler le métal beaucoup mieux, donc faire des laminoirs ou des marteaux pilons, et donc ça vous donne du métal de meilleure qualité que vous pouvez fabriquer en série, et donc ça vous donne plus de machines à vapeur, etc., etc. Donc vous rentrez dans toutes les boucles de rétroaction positive du système technique et du système scientifique. Donc ça, je passe aussi là-dessus. Donc, en résumé, avant de passer, donc ça c'est le passé, hein, mais avant de venir à aujourd'hui et surtout à ce que ça pourrait être demain, donc ce qu'il faut retenir de ça, c'est que vraiment la science, et donc cette engine science, on pourrait dire, la science machinique moderne, c'est vraiment ce qui permet ce feedback positif. Et qui dit feedback positif dit réaction en chaîne, dit un peu comme une réaction nucléaire, si vous voulez. Une réaction nucléaire, si vous n'êtes pas en train de la modérer constamment, elle s'emballe et bon, ça finit mal. Donc la question, c'est pas de dire que la science moderne, c'est intrinsèquement mauvais, mais par contre, je pense qu'on peut dire qu'elle est intrinsèquement accélératrice. Et donc, qui dit accélération, ben, il faut la modérer, il faut la socialiser, en fait, parce que c'est intrinsèquement pas mauvais, mais dangereux. Alors, évidemment, il y a une tentation que vous devez connaître aussi, une sorte de tentation anti-moderne, de dire, bon, pas de science, on veut plus de science, etc. On revient au local, on revient à des savoirs non scientifiques. Donc, bon, on peut avoir des positions aussi politiques là-dessus, enfin, ça peut se discuter, mais en tout cas, je pense que c'est pas viable à court terme dans une planète qui est habitée par 9 milliards d'humains. En gros, on est inséré dans des réseaux technoscientifiques et des chaînes logistiques, si vous voulez, dont on a absolument besoin à court terme pour survivre, mais dont on sait qu'à moyen terme, elles sont pas soutenables, en fait. Et donc, toute la question, c'est qu'est-ce qu'on choisit comme chaîne logistique comme savoir moderne et comme savoir planétaire, si vous voulez, qu'on va garder, sans sachant que ça accélère et donc il faut quand même faire un peu attention. Et qu'est-ce qu'on va faire pour rediriger les thématiques scientifiques? Donc en gros, moi ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut en gros tuer l'infection sans tuer le patient, c'est-à-dire en gros débrancher un peu les sciences et la curiosité humaine de cette boucle accélératrice, sans perdre tout ce qu'on aime bien des sciences, c'est-à-dire en gros aussi ce qui vient de la modernité et de l'autonomie et de la critique, en fait. Et je suis assez proche, donc il y a un philosophe des États-Unis donc, qui a vécu il y a en gros de 1850 à 1950, qui est John Dewey, et qui lui était très optimiste au sens, disons, sur l'attitude scientifique, et il dit, lui, pour lui, le futur de la démocratie est lié vraiment à l'extension de l'attitude scientifique, au sens d'une attitude critique et au sens positif de cette collectivité, disons, de chercheurs dans lequel on peut vraiment échanger, critiquer les théories des uns et des autres, etc., sans avoir d'autorité surplombante. Voilà, mais la question c'est comment on a l'un sans avoir l'autre. Et donc, personne ne le sait évidemment, moi non plus, mais je vous donne quelques, disons, en gros, ce qui est en train de se faire aujourd'hui et qui me semble aller dans ce sens-là. Alors la première chose, et donc Hugues en a parlé, là c'est réduire l'impact. Donc ce qui est vraiment moteur au niveau français, en tout cas, c'est ce collectif de chercheurs qui s'appelle Labo 1.5. Donc 1.5 c'est pour... l'idée qu'on essaye de limiter à 1.5 le réchauffement, on y est presque en fait, donc c'est bon, ouais, j'espère qu'ils vont peut-être changer de nom, mais bon, on verra. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la Labo 1.5, c'est un collectif de chercheurs qui, de manière autogérée, a créé un outil qui s'appelle GES 1.5, donc qui est l'outil standard qui permet de mesurer l'impact. Alors on pourrait se dire, donc c'est déjà bien, on pourrait se dire, mais bon, à quoi ça sert en fait? Parce que la plupart des labos qui ont mesuré leur impact, il y a quand même à peu près la moitié des labos français qui a mesuré son impact, ce qui est quand même pas négligeable. Mais si vous regardez, ça c'était juste une première étape, on mesure son impact et ensuite on essaye de le réduire. Parce que le mesurer, ça ne change pas grand-chose, a priori. Donc on essaye, par contre, il n'y a pratiquement aucun labo qui a commencé à réduire. Okay. Pourquoi? Parce qu'évidemment, mesurer, ça va, c'est relativement facile à faire. Réduire, on va sûrement en discuter un peu, c'est plus compliqué. Mais par contre, je pense que c'est vraiment intéressant parce que c'est un outil qui me semble assez intéressant parce que ça change en fait la représentation qu'on a de la recherche. C'est-à-dire que ça montre que la recherche... On a une image, voilà, c'est notre travail, c'est des trucs, on s'amuse bien, ou enfin, on est stimulé, etc., etc. Mais... En calculant l'impact, on voit aussi que c'est, ce que je disais tout à l'heure, c'est 14 tonnes, donc c'est quand même pas complètement négligeable. Évidemment, c'est une moyenne. Hein. Et en plus, on se rend compte aussi, grâce à la quantification et donc à cet outil-là, que c'est pas, parce qu'en fait, ce qui circulait beaucoup dans les milieux de la recherche, c'est en gros, c'est les voyages en avion, on va diminuer ça et puis ça va bien se passer. Et en fait, c'est pas vraiment ça. Les voyages en avion, dans un labo moyen, c'est 20%. Okay. Et donc, en fait, le cœur de l'impact, c'est les achats. Et donc, c'est le cœur de la recherche. Et donc, c'est très difficile à diminuer. Donc voilà, et en tout cas, ça introduit une sorte de dissonance cognitive entre ce qu'on aime bien faire et puis, en tout cas, si on est préoccupé par ces questions-là. Et donc, voilà. Donc, je me disais, il y a pour le moment, bon, ça mène essentiellement à un blocage, mais voilà. Est-ce que, comment est-ce que, enfin, en tout cas, ça introduit quelque chose et ensuite, on peut commencer à réfléchir et à se demander, par exemple, en physique, c'est plutôt que de se demander comment baisser péniblement de 5% par an, parce que les 5 ou 10 premiers pourcents sont assez faciles à avoir, après ça devient plus difficile. Donc est-ce qu'on peut commencer à réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire qu'une physique à une tonne, quoi. C'est-à-dire une physique qui émettrait qu'une tonne par an, qu'est-ce que ça peut être comme une nouvelle contrainte. Voilà. Bon. Voilà. Alors après, qu'est-ce qu'il y a comme autre initiative au-delà de la labo 1.5? C'est... Donc, on a créé, donc c'est pour ça, c'est là où j'en viens à cette fabrique des questions simples à Lyon, mais c'est un mouvement qui est assez, qui est tout à fait informel, on n'est même pas structuré en forme d'association. Donc, on est un collectif, il y a 200 chercheurs inscrits à Lyon, mais on est vraiment une vingtaine d'actifs, on va dire. Mais il y a des mouvements similaires à, qui s'appellent les athécopoles, Toulouse a été à l'origine de ça, et on a regroupé, en fait, on a fait en août 2022, donc il y a un an et demi maintenant, ce qu'on appelait la journée d'été, les journées d'été des savoirs engagés reliés à l'ENS à Lyon, et on a créé dans la foulée, on a créé ce qu'on appelle le mouvement des savoirs engagés reliés, donc qui a fait une carto, et donc ici vous avez une cartographie donc il y a Grenoble aussi, Grenoble est dans le Rhône-Alpes ici, mais des collectifs comme ça qui essayent de se poser des questions, en fait, essentiellement les questions que je pose aujourd'hui. Donc comment faire pour aussi peser en interne au niveau du CNRS, de l'ANR, comment relier aussi avec ce qui se passe comme recherche à l'extérieur de l'académie. Et puis ce que je disais, c'est ça pousse aussi vers la réflexivité, c'est en gros les recherches qu'on fait au jour le jour, pour qui ça va être utile, qui ça va servir, et donc le type de dissonance que ça induit. Je discutais hier avec un biologiste à l'INSA à Lyon, là, qui travaille, alors je ne saurais pas vous dire exactement le truc, mais enfin c'est sur à l'intérieur des cellules, voilà, et alors il est très très intéressé, disons, il dit oui, voilà, il faut vraiment favoriser l'agroécologie, des trucs locaux, etc. Et je lui dis, mais tes recherches, et ils disent, mes recherches, en gros, ça va éventuellement servir, c'est très fondamental, mais ça va plutôt servir à faire des nouveaux OGM et à Monsanto qu'à l'agroécologie, quoi. Je lui dis, ah ouais, bon, d'accord. Il dit, ouais, mais c'est ce que je sais faire, quoi. Bon, en tout cas, il y a quelque chose là, et puis après, bon, il fera son chemin, Et chacun, là, c'est en plus, on est chacun dans nos spécialités, donc rendre pertinentes ces questions-là est vraiment très spécifique. En gros, moi, ce que je peux dire, je vous ai donné quelques idées sur la physique, mais clairement, je pense qu'au niveau global, une question se pose, c'est comment, si on veut découpler recherche et accélération, c'est comment réorienter cette curiosité, que je pense est à la base de la recherche, vers d'autres types de connaissances. En gros, c'est est-ce que on sait que si on dompte un tigre, le tigre perd de sa vitalité quand même. Okay, c'est plus le même tigre. Et donc, est-ce qu'il faut vraiment continuer à dompter le tigre, ce qui nous met aussi en danger, au sens, s'il n'y a plus de biodiversité, si le climat change beaucoup, le tigre dompté, il ne va peut-être plus faire grand-chose bientôt. Et donc, est-ce qu'il faut apprendre à cohabiter avec le tigre sans trop le dompter, en fait? Alors, c'est beaucoup plus difficile, on est d'accord, mais voilà, la question peut se poser. Et donc, est-ce qu'il faut rediriger l'effort de recherche? Juste pour vous donner des ordres de grandeur, tout ce qui est thématique environnementale, c'est en gros 5% de l'effort public de recherche aujourd'hui. Okay, c'est pas que, parce qu'il y a des gens qui me disent « Ouais, non, mais c'est bon, on va pas faire que de l'environnement. » Je dis « Ouais, ça, on est bien d'accord, mais on n'en est pas tout à fait là aujourd'hui quand même. » Donc, il y a des situations actuelles et donc il y a des équilibres à trouver, et le sens dans lequel on va dépend du point de départ quand même. Donc en tant que physicien, j'ai dit « Ok, est-ce qu'on est prêt à sacrifier certains trucs? Est-ce qu'il faut fermer le CERN, par exemple ?» Bon, c'est une question. Le CERN, c'est un tiers de centrales nucléaires aujourd'hui quand même, hein, ça consomme, d'accord? Donc là, l'hiver dernier, on était à ric-rac, là, cette année, ça va être plus facile apparemment, mais voilà, est-ce qu'on continue à faire des recherches au CERN et on se chauffe pas ou on arrête de la production? Bon, ça, en tout cas, voilà, ça va être des débats qu'on va avoir probablement. Est-ce qu'on continue les recherches, alors, par exemple, d'inspiration, où en gros, où on est vraiment dans des trucs assez accélérateurs, mais donc où ça pourrait être intéressant? Alors, cet exemple-là, je l'ai pris parce qu'il y avait un article dans The Guardian qui était très intéressant. Alors, je n'y connais pas grand-chose, mais il y a ce qu'on appelle la fermentation de précision. Peut-être que vous connaissez ça mieux que moi, mais en gros, c'est des trucs quand même dans des réacteurs, dans des labos, mais on arrive à faire créer des protéines et des trucs mangeables, en gros. Et on épargne ainsi énormément de sol agricole, par exemple, et aussi beaucoup d'émissions. Et donc, bon, qu'est-ce qui va te sortir de ces machins-là? J'en sais rien, mais en tout cas, c'est le genre de trucs qui vont se poser, c'est-à-dire voilà, des recherches qui plaisent peut-être pas trop à ceux qui aiment bien les circuits courts, on va dire, mais est-ce qu'on va pouvoir se passer de trucs comme ça? Je n'en sais rien, mais ça m'inquiète. Et aussi, quand je dis rediriger effort de recherche, je pense que bon, les sciences humaines et sociales ont un impact beaucoup plus faible que les sciences dures, et il faut vraiment créer, ça je pense que c'est vraiment intéressant, d'essayer d'hybrider les sciences humaines et sociales avec des sciences naturelles. Donc il y a plein d'exemples, bon, vous avez peut-être entendu parler de santé globale ou One Health, il y a des choses avec des aspects sciences humaines et sociales et biologie et environnement. Il y a, bon, je n'ai pas le temps de rentrer dans tous ces détails-là, mais voilà, on pourra en discuter si vous voulez de manière un peu plus précise. Juste, je vous donne un livre que je viens de finir, là, de Jérôme Gaillardet, qui s'appelle La Terre habitable, qui est un géophysicien, et qui, en gros, il dit, voilà, on n'habite pas dans cette boule qu'on voit pas de la mission Apollo, vous savez, la fameuse boule bleue qui est la Terre. On n'habite pas vraiment sur la Terre, en fait, si on réfléchit. On habite vraiment une mince zone, en gros, entre les roches. Et puis l'atmosphère, c'est là où ça se rencontre, en fait, le soleil et puis l'énergie qui vient de la Terre, qui en gros transforme les roches en terre et en sol. Et donc c'est dans cette petite couche qui fait quelques kilomètres d'épais qu'on peut vraiment habiter. Et donc étudier de près avec les méthodes aussi bien des géologues que des écologues, que des hydrogéologues, que des gens de SHS, étudier ce qui se passe dans cette zone critique est vraiment très important et interdisciplinaire, et c'est vraiment intéressant. Enfin voilà, bon, ce que je viens de finir, ce bouquin-là. Et donc, en gros, ce qui me semble, c'est que quand même, comment on va rediriger l'effort de recherche, c'est pas juste les scientifiques doivent évidemment y participer, mais ils peuvent pas vraiment décider seuls, et il faut vraiment, voilà, comme je disais, socialiser pour décélérer, il faut aussi socialiser l'effort de recherche. Et donc, un exercice qui a été fait par essentiellement, enfin, les athécopoles et puis les sciences citoyennes, c'est ce qu'ils ont appelé Horizon Terre, pour mimer, vous savez, il y avait Horizon Europe qui avait dit, ok, bah, les priorités de recherche au niveau de l'Europe, et donc là où on va mettre l'argent, c'est, je sais pas, la 5G, l'ordinateur quantique, etc., etc. Et donc, ils ont voulu faire un peu le même exercice, mais Horizon Terre, avec pas tout à fait les mêmes recommandations au bout. Donc ça, je vous recommande d'aller voir. En gros, pour fixer de manière un peu ouverte, quelles sont les grandes thématiques de recherche, ce qui présuppose pas ensuite à l'intérieur de tout dire exactement, mais c'est en gros pour donner des nouvelles priorités, et à l'intérieur de ces nouvelles priorités, bah, l'autonomie et la liberté académique, elle joue, mais elle joue de toute façon aujourd'hui déjà de manière contrainte par l'existant, en fait. Et donc en gros, c'est l'idée, c'est de rediriger un peu le cadre et de laisser à l'intérieur de ce nouveau cadre voilà, la créativité et la liberté académique. Voilà. J'ai fini à peu près dans les temps. Merci.
Voilà, merci Pablo. Donc, si on est ouvert pour les questions que vous pourriez voir, commentaires.
J'ai une question, parce que finalement, là, vous avez fait une présentation où vous montrez un peu la science avec un objectif, on va dire, utilitariste, ou pour faciliter la vie des gens. Mais il y a un grand côté dans la science, dans la recherche, c'est l'accumulation de connaissances et de savoir. Et ces accumulations de connaissances et de savoir sans objectif utilitaire derrière, c'est ce qui construit une société. Et ça, c'est quand même très très important de ne pas oublier. Donc si on se donne des objectifs, il ne faut pas se donner que des objectifs en termes de combien ça va dépenser de CO2, etc., mais aussi en termes de qu'est-ce que ça va apporter à la société. Et par exemple, le climato-scepticisme, qui est complètement à l'encontre de ce que vous essayez de présenter, ne peut être contrecarré que par des gens qui ont fait des recherches sans but utilitaire, mais pour démontrer les effets, etc.
Oui, oui. Donc c'est ce que je disais, c'est-à-dire, Alors, disons, c'est une question effectivement assez importante. Donc je ne le dénie pas du tout ça. Donc c'est ce que je disais, disons, de garder ces recherches, de la curiosité. C'est ce que j'essayais de retrouver sous le terme de curiosité humaine. Ce que j'essaye de dire ici, c'est que cette curiosité qui pour moi est au cœur de la recherche et qui est vraiment un des choses dont il faut hériter, qu'il faut vraiment garder, il faut vraiment sauvegarder, il me semble qu'il serait... Enfin, il faut se rendre compte, en tout cas, c'est mon idée, c'est que cette curiosité-là, en gros, elle a été, par l'histoire qu'on a vécue et que j'ai essayé de montrer ici, elle a été en quelque sorte capturée par la technologie. C'est-à-dire qu'en grande partie, ce qui définit la curiosité qu'on finance aujourd'hui, parce que je veux dire, il y a plein de curiosités qui ne sont pas financées aujourd'hui, c'est-à-dire en tant que chercheur aussi, il faut bien se rendre compte que nos curiosités, on embauche beaucoup plus de chercheurs qui ont certains types de curiosités dans les sciences dures pour aller vite qu'en SHS, par exemple. Il y a certains types de curiosités qui sont, on va dire, bien vues et financées, tout simplement, et d'autres types de curiosités qui sont laissées de côté. Okay? Et donc, la question, c'est, il faut, disons, ce qu'on a construit jusqu'à aujourd'hui, nous a mené là où on est, et donc on se dit, bon, est-ce qu'il ne faut pas favoriser d'autres types de curiosités et des savoirs, effectivement. Donc ce n'est pas utilitaire nécessairement. Donc si je fais passer le message que la seule curiosité intéressante, c'est celle qui va être utilitaire et qui va nous sauver de ça, c'est un mauvais message, ce n'est pas ça que je voulais dire. C'est que, en tout cas, cette curiosité que je défends, je pense qu'elle a été happée par ce système-là en grande partie, en fait. Et que c'est de ça qu'il faut se défaire en partie, en tout cas. Pas complètement, parce qu'on a besoin aussi de garder, et on a créé quand même une technostructure énorme et de laquelle on dépend. Et il va falloir, un peu comme à l'image d'une centrale nucléaire ou du CERN, il faut savoir les démanteler de manière progressive et civilisée. Et certaines, oui, et d'autres non. Ça, je peux pas décider tout seul, évidemment, mais voilà, c'est ce mouvement-là qu'il faut faire, en fait. Et donc, ça ne va pas du tout à l'encontre d'une curiosité humaine, et non utilitariste. Mais il ne faut pas non plus penser qu'aujourd'hui, toutes les curiosités humaines non utilitaristes sont financées, en fait. Oui.
D'abord, merci pour cette présentation. Et je voudrais savoir si c'était possible de situer, dans le contexte de ce que vous avez présenté, les récompenses. Les choses, les métriques qui définissent la réussite humaine, parce qu'on est attiré par quelque chose qu'on cherche, par exemple le profit, c'est ça qui nous, c'est la force motrice de l'industrie. Mm-hmm. En recherche, c'est la réputation qui sert de métrique, qui est une métrique pour la récompense aux chercheurs. Mm-hmm. Et ces aspects-là n'ont pas été très abordés, j'ai eu l'impression de ne pas mentionner ces aspects-là. Mm-hmm. Dans
le contexte de l'anglais. Ok, oui, il y a beaucoup de choses que je n'ai pas eu le temps d'aborder, mais alors, si on veut... alors, j'ai une image, ça vaut ce que ça vaut, mais on pourrait faire, en fait, donc il y a un ouvrage qui est vraiment intéressant à lire, qui s'appelle La Grande Transformation de Karl Polanyi, donc 1944, où il essaye de comprendre un petit peu cette grande transformation, en gros, industrielle et tout ce que ça est de la société de marché qui a vraiment changé complètement le monde par rapport au monde paysan d'avant, en fait, si vous voulez. D'accord ? Donc, c'est vraiment un ouvrage d'historien, de sociologue. Et il part de l'idée que l'arrivée des machines de production de masse industrielle, c'est ça, en gros, qui a fait changer la société paysanne en société de marché, parce qu'en gros, quand vous avez des machines qui produisent en série, il faut, pour que ça soit efficace, et qu'il faut avoir les inputs de manière facile, parce que sinon, si vous n'avez pas d'inputs sur ces trucs-là, ça c'est pas fiable. Donc, avoir des inputs, ça veut dire quoi? C'est avoir que les paysans, au lieu de travailler leur champ, viennent être comme salariés pour travailler à l'usine, et puis que toutes les matières premières puissent être achetées. Donc, en gros, vous avez besoin d'une société de marché qui va avec l'industrie. Alors, où est-ce que je veux en venir pour répondre à votre question quand même? C'est qu'on pourrait faire une image similaire sur l'impact des machines sur les savoirs maintenant. D'accord? Pas sur les productions, mais sur les savoirs. C'est-à-dire qu'avant, en gros, la société agricole et artisanale, les savoirs étaient des savoirs produits en situation par les artisans et les paysans sur voilà, quelles étaient les bonnes variétés, ce qu'il fallait planter ou pas, enfin, etc., etc. Bon. Et en fait, avec l'arrivée des machines et du coup des sciences modernes, on va casser cette boucle-là et introduire des savoirs en fait en passant par le laboratoire. C'est-à-dire que les savoirs ne seront pas seulement en situation, on va créer des savoirs. Et en gros, là où je vais arriver à la réponse quand même, c'est que vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que de la même manière que, les industriels, comme vous dites, ont envie de faire du profit, et à la limite, peu importe ce qu'ils produisent, en fait. D'accord ? Le produit est juste un prétexte pour faire du profit. Mais en fait, dans ces boucles-là avec les scientifiques, à la limite, peu importe leur savoir produit, ce qui compte, c'est la publi. Un peu comme ce qui compte, c'est le profit, si vous voulez. Si vous allez vraiment, suivre cette image-là. Donc, vous créez des boucles, en fait, où vous allez favoriser un certain type d'output. Dans un cas, le profit, dans un autre cas, la publi, ou la connaissance pour la connaissance. Et en fait, l'objet qui sert à faire tourner le truc devient un prétexte, quelque part. Et bon, tous les scientifiques ne marchent pas comme ça, mais j'en connais quelques-uns quand même qui marchent un peu comme ça. C'est-à-dire, où effectivement, c'est la publication qui devient le but. Mais là, c'est un peu l'exemple, effectivement, de circuit accélérateur énorme. Donc là, clairement, il faut casser aussi ce genre de choses pour que... Alors, ce qui ne veut pas dire casser la publication, attention, je ne veux pas me faire, parce que la publication, c'est vraiment essentiel, c'est-à-dire la revue par les pairs et la critique par les pairs, et donc la possibilité qu'il existe une communauté critique qui va valider, qui va réfléchir, etc. Ça, c'est vraiment le cœur de la science, et ça, c'est quelque chose qu'on veut sauvegarder. Donc, vous voyez, ce qui est compliqué dans toutes ces questions-là, c'est que toutes les choses sont à la fois problème et solution. Donc, il faut vraiment aller finement et de manière un peu précise pour pas faire de bêtises, quand même. Ouais.
Vous avez bien détaillé qu'effectivement, avec l'accélération des connaissances produites, on améliore les techniques. En améliorant les techniques, on améliore l'industrie. Donc, on augmente notre capacité à consommer nos ressources. Et au final, donc un produit de CO2, etc. Mais il y a cette question que vous posez qui est dans votre titre. Peut-être qu'il faut aussi ralentir la science. Non, parce que c'est vrai qu'on est à la source de ça indirectement. Moi, ma question, elle est sur le côté que toutes nos sociétés sont en compétition les unes avec les autres. Donc effectivement, on peut faire ce diagnostic. Il faudrait peut-être qu'on se ralentisse. On est tous conscients aussi que l'état d'un pays et sa capacité à survivre dans la compétition internationale dépend de ses capacités aussi d'innovation. Donc comment envisagez-vous effectivement cette question de il faudrait peut-être qu'on se ralentisse et qu'on se bride, mais dans un contexte où on est dans un monde mondialisé, où on est en compétition les uns avec les autres. Et je pense que ça c'est vraiment une question qui est compliquée. Et notamment dans un contexte où le président Macron a annoncé hier qu'il avait révolutionné l'organisation de la
France. J'ai vu ça là.
Mais j'imagine pas que c'est pour l'environnement qu'il veut ça.
Mais je ne suis pas dans le conseil présidentiel, là, si vous voulez. Oui, je comprends. Mais alors, donc je pense qu'effectivement, compétition et slow science, si vous voulez, ou disons en tout cas des accélérations et compétition, je ne vois pas très bien comment ça peut être compatible, effectivement. Donc il y a eu un travail de prospective qui a été mené par l'Institut de physique au CNRS, que je connais, mais d'autres instituts ont pu faire des choses similaires, mais celui que je connais, c'est l'INP, donc la physique. Et donc il y avait des groupes de travail sur, en gros, dans 30 ans, la physique, ça va ressembler à quoi dans le numérique, dans le quantique, etc. Et il y avait un groupe sur sobriété, ça s'appelait comme ça. Et donc explicitement, comme recommandation et comme constat, en fait, ils ont fait le même constat que vous, en disant... la manière dont l'argent est attribué aujourd'hui par des appels d'offres compétitifs, etc., c'est difficile à concilier avec l'idée qu'on va justement essayer de partager le plus possible les ressources pour pas avoir chacun le même appareil, etc. Enfin, voilà, il y a des aspects qui sont pas compatibles entre compétition et cette vision-là de décélération. Après, ça veut pas dire, enfin, slow science, ça veut pas dire non plus, juste faire la même chose, mais moins. Vous voyez, je pense que On peut imaginer quand même des appels d'offres compétitifs, etc., mais sur des thématiques sur lesquelles on pourrait avoir des... ça n'empêche pas, je veux dire, la créativité plus que la compétition. Je pense effectivement c'est sur des inventions, mais même sociales, d'organisation, de manière, ces thématiques, là, comme je disais, le système Terre, il y a des alliances à faire et des recherches à mener, il y en a plein. Mais plus effectivement s'hybridant avec ce qui se passe en dehors de la société, avec les industriels, enfin avec les industriels, les petites industries ou les associations, etc. etc. Donc il y a plein de choses à inventer, mais pas effectivement le monde compétitif où c'est effectivement les publications, etc. etc. Ça, c'est pas. Je vois pas de possibilité de faire les deux à la fois, en fait. Donc c'est un peu la même question sur les publis, en fait. Mais c'est une question, ouais.
Peut-être juste un tout petit commentaire là-dessus avant de repasser le micro. Je pense qu'en tant que chercheur, on est toujours confronté à des choses qui sont la compétition, mais la collaboration aussi. Et peut-être c'est un axe, c'est très concret, au niveau des étapes, je ne sais pas comment on peut faire ça, mais au niveau de nos pratiques, déjà, je pense qu'on pourrait essayer de rééquilibrer la compétition versus la collaboration. La compétition, on va expliquer les choses, la collaboration, on se met ensemble pour faire quelque chose, c'est quelque chose que moi j'ai souvent l'esprit quand je fais de mon projet, c'est quand j'étais une piste, mais je fais attention quand même. Qu'est-ce qui avait levé la main?
C'est une question qui suit un peu tout ce que vous avez abordé là. Pour moi, le discours que vous tenez est dans une tradition rationaliste. Mmh. Je trouve qu'aujourd'hui, on est confronté à une vague. Je ne sais pas si c'est irrationaliste, mais c'est au moins de libertarisme. Et cette vague-là, elle risque d'engloutir beaucoup de choses. Parce que je pense qu'au niveau académique, les chercheurs ont un peu de pouvoir. Vous avez dit tout à l'heure, la science sans pouvoir. Dans le milieu universitaire, dans le milieu académique, je dirais, il y a un peu de pouvoir. Mais il est en train de se développer, et je pense par exemple à Elon Musk, des choses qui vont bien au-delà. Mmh. Et c'est là, à mon avis, que le danger aussi, qu'on ne peut pas ne pas penser, auquel on ne peut pas ne pas penser. Mmh. Mmh. Et ça va avec du populisme, ça va avec de l'hyper-libertarisme, et qui n'est pas dans nos communautés entières. Je dirais en gros, donc on est un peu en dehors de tout ça. Mais peut-être que c'est là qu'est le danger, ou que sont les dangers.
Oui, j'essaye de donner une vision un peu constructive et optimiste quelque part. Effectivement, il y a beaucoup de... Enfin, on pourrait se dire, bon, c'est un peu naïf tout ça, parce que, voilà, je me limite aux aspects positifs et on garderait la main et on essaierait de faire des choses. Effectivement, il y a le monde extérieur, donc il y a un peu les fous, style Musk, mais d'autres, il y en a plein. Enfin, moi, je suis d'origine argentine, et donc récemment, on a eu notre Trump élu, dont une des principales conseillères, en fait, avait sorti une vidéo montrant qu'en fait, la Terre est plate, et qu'en fait, on nous ment, parce qu'en fait... pourquoi on nous ment? Parce qu'il y a toute une élaboration, j'ai découvert ça, c'est quand même assez incroyable, effectivement, ce qui se passe, c'est que la Terre est plate et qu'il y a des murailles autour, et que les gens, s'ils découvraient ça, ils seraient tellement angoissés par le fait qu'il y a un mur et qu'ils peuvent pas sortir, etc., donc il faut leur cacher, enfin bon, un truc. Et elle, c'est une députée de ce nouveau président, donc ouais, enfin, je suis bien conscient de ce genre de choses, plus la guerre en fait, parce que voilà, une des questions pour lesquelles j'ai pas de très bonne réponse du tout, en fait, où je me pose vraiment la question, c'est en gros, si on veut défendre un modèle démocratique de manière pas trop naïve, avec une vraie défense et donc militaire, c'est est-ce que en gros il faut que la science continue quand même à aider en gros à faire des armements face aux puissances hostiles, et on en connaît, et ça va pas s'arranger tout de suite comme ça, a priori. Et dans un monde où on imagine en plus que il va y avoir des migrations de milliards de personnes, peut-être, qui vont devoir bouger, ça va pas non plus stabiliser les choses. Donc voilà, j'ai tendance à être un peu naïf et un peu trop optimiste, effectivement, je reconnais, je ne suis pas du tout compétent vraiment pour, je sens bien ça comme une menace et comme une limite à ces constructions un peu positives quand même malgré tout. Et voilà, ça, j'ai pas de bonne réponse là-dessus, mais je suis d'accord que c'est vraiment un problème important. Et donc c'est pour ça aussi, peut-être la seule chose qui est pertinente dans ce que j'ai dit, c'est j'essaye de voir ce qu'on veut sauvegarder des sciences, parce que disons-moi, ce qu'on peut faire en interne, et donc vraiment garder ces aspects de discussion collective, de possibilité de critiquer, etc. Ça, c'est vraiment des valeurs sur lesquelles il faut qu'on soit d'accord et qui soient un peu comme ce que je disais de John Dewey, quoi, en fait, des valeurs à défendre, mais qu'elles soient pas, elles soient très menacées aujourd'hui, j'en conviens. Mais est-ce que ce mouvement-là interne, de redirection des sciences, peut quand même pas aider? Je pense que collectivement, ça peut quand même aller. En tout cas, pour casser un peu le lien entre Musk, parce que Musk, il est quand même très relié à du techno, quoi. D'accord? Il s'appuie beaucoup, en tout cas superficiellement, sur la techno va sauver le monde. Et il y a une partie de la communauté scientifique qui est quand même un peu sur un aspect comme ça, parce qu'il y a un aspect opportuniste aussi. Je ne sais pas si vous avez vu passer la tribune Manhattan récemment dans Le Monde. Donc, c'est un ensemble de chercheurs, dont certains sont dans le comité présidentiel d'ailleurs pour la science, qui disaient en gros, il nous faut des milliards comme on en a eu pour la bombe atomique. Donc, c'est des physiciens quand même beaucoup. Et qui disent, voilà, il nous faut la même chose, un plan Manhattan avec beaucoup de milliards pour créer en gros la solution technique au réchauffement climatique. Okay. Et donc ça, voilà, il y a des gens comme, enfin, il y a des proximités là avec Musk, etc. Et donc voilà, ce que je propose comme science un peu terrestre, pour le dire, enfin, reprendre les mots de la tour, enfin, ou de science un peu déconnectée de l'accélération, au moins met une barrière avec ça, quoi. Mais bon.
Mais pour suivre, ça, est-ce que le raisonnement que vous nous présentez, c'est pas un raisonnement un modèle d'institution scientifique constante, si je puis dire? Au sens où l'exemple de Musk, mais on pourrait prendre l'exemple de l'IA, et puis ici, comme ça, il y aura plein de gens pour me contrôler, sur les vaccins ARN, où tout d'un coup, la France s'est aperçue que, ouf, elle n'était pas capable de produire un vaccin ARN, quoi. Mm-hmm. Et que dans les deux cas, ça constitue des modèles pour l'IA. Il y avait un papier qui disant que le MIT, et même le MIT, était en train de dire qu'il n'avait pas les moyens de soutenir ses étudiants et ses postdocs face à la puissance financière, et même d'accompagner le développement de la puissance financière. Donc il y avait une espèce de deal à revoir, en disant qu'il fallait qu'ils aient plus d'argent pour pouvoir renouer les industries qui sont là. Donc, je sais bien qu'on a eu les Bell Labs pour les physiciens dans les années dernières, mais là, ça donne une impression que nos institutions, et ici sur la presqu'île, on est bien placé, quoi, ces institutions-là, elles sont dans une espèce de modèle constant dans lequel le lien entre la science, la technique, la sphère industrielle et économique, c'est un espèce de. Toutes les conversations qu'on a eues là sont basées sur l'idée qu'on a une séparation quelque part entre la production de connaissances et l'utilisation. Ça veut dire quand on est à l'ESR, on se préoccupe essentiellement de la production de connaissances. La production de connaissances va sortir, c'est les publics dont vous parliez, ils seront utilisés derrière. Les gens justement comme Musk ou Yann LeCun, ou bien ce qui s'est fait aussi pour les vaccins ARN, c'est pas ce modèle-là. C'est un modèle qui est beaucoup plus intriqué entre un développement industriel, une puissance économique et une recherche scientifique et technologique.
Oui, après, donc, je pense que aujourd'hui, effectivement, en tout cas dans le domaine de l'IA, etc., c'est clairement pas les acteurs académiques qui sont en pointe. Enfin, je veux dire, les étudiants, quand ils veulent vraiment faire des trucs sympas, ils vont plutôt, quand ils sont embauchés à Google ou à Facebook, ou à Meta, etc., bon, ils savent que c'est là où il y a les données, où il y a les moyens, où il y a les questions intéressantes. Donc, je pense que, les informaticiens, par exemple, ont beaucoup de mal à embaucher même des chercheurs parce que, voilà, il y a ces problèmes-là. Donc là, donc ça, c'est clair. Et donc, que ce soit des acteurs industriels qui mènent les choses et clairement pas, va pas nous faire décélérer. Enfin, je vois pas comment, effectivement. Donc ça, c'est clairement des équilibres des rapports de force à établir avec eux. Ça, c'est clair. Bon, mais qui passent pas, les institutions scientifiques toutes seules, elles vont pas pouvoir faire grand chose par rapport à ça. Je pense que c'est vraiment, ça dépasse largement le problème des institutions scientifiques. En revanche, là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est de dire que c'est vraiment nouveau et que disons que ce modèle, vous citiez de l'ECRF qui produit juste les connaissances, etc., ça, je pense que ça n'a jamais vraiment été le cas. C'était une construction qui a, en gros, après la Deuxième Guerre mondiale, un contrat entre science et société en disant, voilà, c'est le modèle de la poule aux œufs d'or, là, dont parle Isabelle Stengers. En gros, les scientifiques disent, comme la poule aux œufs d'or, il faut nous laisser pondre nos œufs qui vont, et si vous nous embêtez trop, on va plus savoir pondre nos œufs, et donc l'innovation pourra pas se faire, etc. Donc il faut nous laisser l'autonomie. Mais je pense que cette autonomie, elle est largement mythique, en fait. Ça n'a jamais été vraiment comme ça. Et si vous regardez les exemples d'histoire des sciences, en fait, plupart des avancées scientifiques, elles viennent de collaboration avec les industriels, et c'est ce que je disais, c'est-à-dire que la science depuis toujours a été enchevêtrée avec les machines et avec la technologie, même la mécanique quantique. Là, on en parlait tout à l'heure, la mécanique quantique, au départ, quand vous regardez Planck, ce qu'il essaye de faire quand il met son quantum, en fait, quel est le problème que les chercheurs essayent de résoudre à ce moment-là, qui est vraiment la question scientifique en fait, c'est donc la catastrophe ultraviolette, c'est-à-dire le fait qu'on ne sait pas reproduire le rayonnement du corps noir. Mais d'où vient cette question-là? Si vous regardez, en fait, c'est qu'à l'époque, on est en train de faire les premières ampoules à incandescence avec l'électricité. Et donc, c'est là où on essaye de faire les filaments. Et c'est en mesurant, en fait, la lumière émise par ces filaments donc de carbone et puis de métaux à l'époque, qu'on se rend compte, en fait, que voilà, on va vers une question plus fondamentale qui est le rayonnement du corps noir. Mais le questionnement et le fait que ça ne marche pas, c'est vraiment venu de questions industrielles au départ. Donc, ça a toujours été un continuum, je pense, depuis que les sciences existent.
Ouais. Et du coup, c'est parce qu'un commentaire que je ferais, c'est que cet aspect un peu frontal de cette importance-là, j'ai pas eu l'impression de complètement le retrouver dans le séminaire. Je donne un exemple qui doit être juste ce que vous venez de dire. C'est le fameux cycle Haber-Bosch. Il y a un papier de l'American Chemical Society disant une des plus grandes réactions chimiques avec les plus grandes actions industrielles, c'est la production donc des composés pour l'agriculture. Et ça, c'est une histoire, enfin, c'est deux prix Nobel, hein, c'est 1918 et 1931, et qui sont exactement faits pour amorcer ce développement industriel. Mm-hmm. Et alors, du coup, il est assez emblématique celui-là, parce que c'est vraiment une question scientifique avec deux prix Nobel, et ce cycle Haber-Bosch n'a de sens, il ne me trompe pas, que si on a du pétrole. Mm-hmm. Parce qu'il faut une capacité énergétique absolument phénoménale pour faire tourner le cycle Haber-Bosch. Mm-hmm. Et du coup, ça signifie que c'est une espèce, pour le coup, d'alliance science-pétrole. Qui permet de faire ça. Et je pense que par exemple, à Grenoble, on pourrait presque rebaptiser le pont Oxford de pont Marvin. parce que finalement, une bonne partie du polygone, il travaille sur. La sucra est extrêmement importante, et toute la microélectronique, c'était ça. Donc, c'est les deux prix Nobel de Marvin de physique. Quoi. Non, mais donc, qui sont des exemples qui vont dans le sens de ce qu'on a en train de discuter.
Oui, tout à fait. Non, mais je suis d'accord. Il y en a plein, en fait. Je pense que voilà, c'est difficile de trouver, c'est l'exception, en fait.
Et du coup, est-ce qu'on peut dire que le XXe siècle, c'est science plus pétrole, quoi?
Oui, science, oui, parce que le pétrole est à la base de l'industrie, en gros, c'est à la base de la civilisation. On s'en rend bien compte, en fait, de la difficulté de s'en passer, parce que c'est vraiment, tout est bâti sur le pétrole, en fait. Et donc, y compris la science, bien sûr. Oui, bien sûr.
D'autres questions? Oui.
Bon, j'ai une question par rapport au métier que l'on fait, et par rapport à l'effet rebond qu'on peut introduire, parce qu'en fait, en produisant des connaissances, on va de facto, cette connaissance va être utilisée et accélérer notre vitesse pour aller dans le mur. En fait, finalement, on est en train de poser les pavés, quand on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, toutes nos bonnes intentions, en fait, elles se retrouvent à paver l'enfer. Et est-ce que vous auriez des idées de pistes, de réflexion sur comment orienter nos métiers de telle sorte à ce qu'on évite de paver l'enfer.
Alors oui, j'ai donné quelques idées là de cette dissonance, enfin voilà, qu'on a en gros de disciplines scientifiques en fait qui ont hérité de cette histoire accélératrice, et en gros on a tous été formés, enfin pas tous, mais en grande partie, et les physiciens notamment, à développer des connaissances qui, comme je le disais tout à l'heure, là, s'imbriquent de manière assez naturelle dans l'accélération, en fait. Par défaut, en gros, on va là-dedans. Et donc, comment éviter de mettre les pavés dans ce sens-là et puis essayer d'en mettre quand même, mais dans un autre sens? Ça, il n'y a pas de réponse générale, en fait. Disons, il n'y a pas de réponse générale qui ne dépendent pas de ses propres compétences qu'on a développées, en fait. Et donc, pour un physicien, ou pour un écologue, ou pour un biologiste, ou pour etc.
C'est-à-dire que quand on va dans le bon sens, en fait, on se retrouve quand même à aller dans le
mauvais. Oui, bien sûr. Alors, il y a deux réponses à ça, je dirais. Si vous en restez en gros à des connaissances très enchevêtrées avec les machines, je parlais de mon collègue là qui fait des trucs en gros qui vont si vous étudiez les génomes par exemple, et des trucs de technique en gros qui ne vont être pertinents que si on a les capacités techniques en gros de manipuler le génome par exemple, d'accord, ou si vous travaillez sur même de l'électronique en physique, pour prendre un exemple en physique, en gros, l'électronique, ça suppose que vous avez les moyens techniques de purifier les matériaux. D'accord ? Et donc, bon, voilà, des énormes trucs. Ben, en gros, si vous produisez ces connaissances-là, ou si vous produisez des algorithmes super efficaces pour traiter des données, ben ça va être utile pour les gens qui ont les données. Donc, en gros, il y a des types de connaissances où je ne vois pas comment elles peuvent être autre chose que des pavés dans le mauvais sens. OK ? Alors, on pourrait imaginer, alors parce qu'on pourrait me donner l'exemple de l'ARN, là. Donc, l'ARN et les vaccins, ça rentre effectivement dans des domaines un peu, disons, plus difficiles, au sens où, c'est ce que je disais, démocratiquement, il va falloir sauvegarder quand même et donc continuer à développer des recherches qui développent des choses dont on a besoin vraiment, même si c'est un peu à tendance accélératrice. Donc, mais ça suppose du coup qu'on ait un contrôle derrière de ce qui se fait, ce qui est difficile à mettre en place en pratique parce que ça rentre dans des boucles d'industriels. Mais sur le principe, si vous voulez, là j'en reste à des trucs de principe. Donc, donc une autre solution, c'est d'essayer de développer, et c'est ce qu'on essaie de faire à la Fabrique des questions simples au mouvement des savoirs engagés reliés, c'est-à-dire de développer des projets qui, dès la source, en gros, vont produire des connaissances dont on a beaucoup plus de chances de penser, dont on a des bonnes chances de penser que ça va se découpler de l'accélération. D'accord ? Donc, je vous donnais l'exemple là des. Il y a les SHS, quand même, en grande partie, les sciences humaines et sociales produisent des savoirs déjà qui ont beaucoup moins d'impact et qui peuvent s'inscrire plus facilement dans des collectifs, etc. Mais c'est ce qu'on essaye de faire, donc, mais avec très peu de moyens sur la fabrique des questions simples. Donc, par exemple, il y a une biochimiste chez nous qui était au CNRS, qui, pour différentes raisons, qui travaillait dans un labo avec Mérieux et qui s'est dit, bon, plutôt que de travailler sur les médicaments, je vais plutôt développer des choses de prévention. Et donc, elle a développé tout un projet relativement assez bien soutenu par le CNRS quand même, où elle a carrément changé de labo. Et puis, elle a vraiment développé des choses sur, en gros, en collaboration avec des paysans, un truc qui s'appelle de santé globale, c'est-à-dire vraiment sur les sols, sur pesticides, etc. Et en s'appuyant sur ce qui existe à nous, qui s'appelle le Centre de recherche en botanique appliquée, qui est une sorte de laboratoire un peu hors l'académie, mais qui est soutenu par la métropole, qui teste en fait des nouvelles variétés de plantes qui, en gros, vont être adaptées au climat qu'aura Lyon dans 20-30 ans, en fait. Donc, des nouvelles variétés. Et elle teste ça avec, dans les jardins, de gens qui participent. Enfin, voilà, il y a tout un truc. Je peux passer un peu plus de temps là-dessus. Mais, en gros, elle s'est dit, bah, voilà, ma recherche, ça colle pas avec ce que j'ai envie de qui sorte de mon travail. Et donc, elle a carrément réorienté ses recherches. Mais effectivement, elle a perdu en grande partie ses compétences de biochimie. Elles ne lui servent pas à beaucoup, en fait. Moi, de mon côté, voilà, moi, je faisais des nanosciences à une époque, de la modélisation. Bon, les nanosciences, je ne vois pas trop non plus. Et donc, voilà, en gros, il faut chacun inventer son propre chemin, en fait, malheureusement. C'est comme ça, qu'il soit... Parce qu'on a chacun des spécialités tellement spécifiques aussi par nos carrières que... il faut, et donc, soit se raccrocher à des projets qui existent et qu'on essaye de faire vivre à la fabrique et dans d'autres à Tricopole, soit carrément se réorienter. Enfin, il n'y a pas de voie très facile, effectivement.
J'ai une question plus terre à terre.
Ouais.
Pour revenir à nos petites publications,
ouais.
Et aussi à votre travail au CNRS, donc on est tous très sensibles à la notion, enfin, plus ou moins sensibles à la notion de facteur d'impact. Mmh. Je m'interroge sur la pertinence éventuelle, savoir si ça serait réaliste d'essayer de pousser pour qu'un facteur d'impact environnemental soit associé à nos publications.
Ouais.
Jusqu'aux éditeurs, est-ce que c'est quelque chose qui fait sens ou pas du tout?
En tout cas, c'est quelque chose qui ressemble un peu à ce que demande le COMET, c'est-à-dire de pouvoir imaginer au préalable, voilà, alors, un index, enfin, un indice ou un indicateur, ça me semble un peu compliqué, effectivement, parce qu'en gros, ça demande vraiment l'expertise locale, quoi, de ce que vous savez faire, donc ça ressemble beaucoup à la question précédente, c'est-à-dire, en gros, comment est-ce que je pourrais auto-évaluer mon index pour... me dire, alors, juste pour vous donner une idée de la difficulté de la chose, je vous ai donné tout à l'heure le chiffre de 5% du budget public destiné à l'environnement, donc d'où je sors ça. En fait, c'est assez difficile d'avoir des chiffres vraiment fiables et globaux, en fait, du budget public de financement. Donc, un étudiant, là, en économie, a fait un stage, là, avec moi récemment, enfin, il continue à travailler là-dessus. Et déjà, quand vous lisez, ça s'appelle les bleus et les jaunes budgétaires, donc vous avez toutes les lignes de toutes les actions qui sont menées. Et déjà, rien que sur l'argent qui est mis, voir si c'est environnement friendly ou pas, enfin, bah, c'est pas être trivial ligne par ligne, parce qu'en fait, vous avez des trucs qui sont difficiles. Voiture électrique, vous le mettez où, ça? Est-ce que c'est... Bon, vous voyez, ça résout certains trucs, mais pas tout. Centrale nucléaire, vous les mettez où? Effectivement, le gouvernement, lui, les met dans l'environnement, par exemple, parce qu'effectivement, décarboner, donc ça a une certaine logique. Mais, et donc, vous êtes confronté à chaque fois à des choix comme ça, mais c'est des choix politiques, en fait, et donc c'est bien de se les poser. Il n'y a pas de réponse simple, en fait. Mais donc un indicateur, je pense que ça aurait tendance à gommer tout ce travail un peu de discussion politique, en tout cas, ou sinon il faut vraiment afficher, enfin voilà, mais comme c'est fait pour tous les indicateurs en fait, il faut vraiment mettre les présupposés avant. Bon, ça pourrait avoir des vertus un peu pédagogiques effectivement, mais c'est un peu dangereux, quoi.
Les petits questionnaires pour savoir si on consomme 7 tonnes ou 10 tonnes.
Ouais, mais là vous avez quand même un impact carbone. D'accord. Donc, effectivement. Après, si vous dites, OK, mon chiffre... Oui, mais c'est deux choses différentes. C'est-à-dire, c'est l'impact carbone, c'est dans ma recherche, les moyens que j'utilise, etc. Ça ne prend pas en compte les effets des connaissances que je produis.
Non, d'accord. C'est
juste
le coût de ma recherche.
Ah, OK, pardon. Moi, je croyais que vous parliez... D'accord, j'étais un coup trop loin. Je pensais que vous parliez... Ah oui, bien sûr. D'accord, pardon, j'avais mal... Ah, mais ça... Oui, mais ça existe.
Aux métriques des publications quelque part, de manière relativement formelle.
Ah ok, d'accord, okay. J'avais mal compris la question. Donc vous voulez en gros que dans chaque publi, on lui attribue un score carbone, en gros, un score carbone. Oui, pardon, ok, donc j'avais pas compris. Oui, on pourrait effectivement, faut proposer ça à la 1.5, mais après la question c'est... un indicateur, pourquoi faire, en fait? L'intérêt d'un indicateur, c'est ce qu'il permet derrière, en fait. Chiffrer pour chiffrer, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc, est-ce qu'en gros, on vise des... Bon, je pense que déjà, un bilan carbone du labo, c'est déjà un niveau de granularité suffisamment fin pour savoir ce que ça veut dire, quoi. Après, multiplier les indicateurs à différents niveaux, y compris individuels, je pense que c'est un peu peut-être moins prioritaire, ouais, quand même. Je pense que la priorité maintenant, c'est qu'on sait à peu près calculer, c'est surtout qu'est-ce qu'on fait et comment on réduit ou pas, et c'est ça les discussions intéressantes en fait. Voilà. Mais pardon, j'avais mal compris, j'étais allé chercher trop loin.
Une dernière question, il y a d'autres
questions? Oui, pour revenir sur la question de la bonne définition de nos sujets de recherche, maintenant c'est un exercice... super intéressant de, par exemple, prendre horizontal et voir si on s'y retrouve. Et puis, mais en même temps, c'est complètement désemparant si
on s'y retrouve pas.
On essaie d'étaler sur ce qu'on sait faire. Ouais. Il y a vraiment une démarche radicale dans le sens de revenir à la racine, par exemple, revenir vers « je sais faire une démarche scientifique, peut-être que ça, je peux l'appliquer à autre chose. » Et sur l'aspect de définition de ces grandes thématiques, etc., de la socialisation de la recherche, comment faire pour se prévenir du réflexe du scientifique qui est très habitué à la compétition et qui va toujours trouver une justificative. On sait très bien vendre nos projets, donc on voit les gens qui peuvent être choisis de comité, etc. Ils vont toujours défendre leur chapelle. Comment on peut faire pour imaginer de socialiser tout le temps en essayant de déconstruire des arguments de vente de scientifiques dans des thématiques extrêmement spécialisées? Donc ça va être dur.
Oui, c'est ça, ou des non-experts, enfin, parce que donc il y a des solutions qui sont testées, du style on met des gens qui viennent d'associations de patients ou des gens qui viennent d'associations dans les conseils d'administration ou dans les jurys en fait qui vont attribuer les choses. Et bien en fait, je pense que, on ne sait pas faire, il n'y a pas une recette miracle, mais je pense que si vous mélangez des experts scientifiques qui en gros savent. Comment ça se passe et le genre de trucs qu'on essaye, qui connaissent quand même les tricks of the trade, qui connaissent ce qu'on sait faire. Et puis des gens extérieurs à la communauté scientifique qui vont se poser des questions assez différentes et que vous arrivez à faire travailler des gens comme ça ensemble, ce qui n'est pas trivial, ne voit pas ce qu'on peut faire de mieux que ça, en fait. Donc, il y aura des erreurs, etc. Mais, bon, je pense que ça sera quand même mieux que ce qu'on sait faire aujourd'hui, quand même. Donc, sur cet aspect-là, je pense que, voilà, on est... Enfin, l'évaluation des projets, on a vraiment beaucoup de marge d'expérimentation et pour apprendre à faire des choses, toujours dans cet esprit, en fait, un peu à la Dewey, d'expérimentation collective et de, voilà, on tire le bilan, ça marche pas parce que ceci, etc. Mais au moins, voilà, si le but est à peu près clair, qui est de dire, voilà, on va essayer de développer des thématiques de recherche un peu plus socialisées, voilà. Donc, il y a des projets qui existent, mais ils sont pour le moment totalement marginaux, en fait. Et donc, voilà, ils sont pas beaucoup avancés parce qu'on ne les a pas beaucoup laissés expérimenter non plus. Voilà, et après le fait qu'effectivement, on hérite de formations et de savoir-faire qui sont très accélérateurs, enfin, en tout cas pour les disciplines expérimentales, et qui donc ne sont pas très adaptées en partie. Et donc il y a une partie, je pense, qui peut être recyclée avec des idées, soit parce qu'on a identifié des besoins, style l'ARN messager, mettons, soit parce qu'on a identifié des manières quand même... Je ne sais pas, je sais que, par exemple, là, en agroécologie, apparemment, donc ce n'est pas mon domaine, mais les gens utilisent quand même beaucoup des techniques, disons, ont beaucoup appris, en fait, des relations entre, je ne sais pas, les bactéries, les arbres, les racines, les, etc., les champignons, etc. Et que le fait d'avoir des idées d'interaction, et même via des identifications génétiques, ça a quand même été intéressant, en fait. Ça a permis de développer des choses. Donc, il y a sûrement des compétences, par exemple, techniques de, je ne sais pas, de détection de génome, des trucs comme ça, il faut être un peu inventif, mais ça peut-être être recyclé dans des choses comme ça. Mais ça demande, enfin, en gros, c'est pour ça que je dis chaque sous-domaine est vraiment spécifique et il faut qu'il se pose la question. Et moi, je suis vraiment pas compétent en dehors de quelques sous-domaines, quoi.
Moi, j'ai eu un autre commentaire. En fait, bon, il y a d'un côté, il y a le progrès, disons, scientifique. Mais est-ce qu'il y a une bonne partie du progrès, c'est simplement de rendre, en fait, des choses invisibles? Ça veut dire d'externaliser les problèmes. Parce qu'il y a beaucoup de développements qui sont soi-disant porteurs de l'avenir, qui sont en réalité incroyablement crades. Simplement, c'est délocalisé, soit dans les régions en Chine, soit dans d'autres pays du tiers-monde. Et il y a tout un aspect, en fait, qu'on a complètement perdu ici, et qui est toute la partie due à l'extraction, etc., qu'on ne voit plus, qu'on voyait encore il y a 40 ans. Mmh. Maintenant, on ne voit plus ça. Et je pense que le rôle, c'est plus, là, je suis dans le commentaire, mais le rôle du scientifique, c'est de montrer aussi, ça veut dire, ce côté-là qui est caché, en fait, et beaucoup de choses qui sont du progrès, en réalité, c'est pas du progrès, c'est simplement de la délocalisation.
Je suis d'accord. C'est peut-être plus ce rôle, je sais pas si c'est vraiment le rôle du chercheur, plus du journaliste, peut-être, ou des sociologues, ou etc., enfin, de documenter ça, et ça, je suis d'accord, enfin, je suis frappé avec le débat sur les éoliennes ou des choses comme ça. En fait, je trouve que c'est presque bien d'avoir une éolienne pas trop loin pour se rendre compte de ce que ça veut dire que l'électricité qu'on consomme, quoi, quelque part. Et donc, je pense qu'effectivement, une partie de la décélération viendra du fait que tous ces trucs-là qui sont des boîtes noires invisibles favorisent, en fait, des trucs hors sol, quoi. Je suis assez d'accord avec vous. Mais bon, je ne sais pas si c'est le rôle des chercheurs, vraiment, plus des journalistes ou de... Voilà. Mais bon, ouais.
Et je pense qu'il faut faire ce tableau en 30 minutes et demie.
Oui, ça va.
Merci à tous pour vos discussions.
Merci.